Bonjour à toutes et à tous. Alors, séquence littéraire avec Philippe Castelnau. Bonjour Philippe Castelnau.
Bonjour Marc.
Alors, vous êtes auteur montpelliérain, on peut dire.
Oui.
Tout à fait, voilà. Et puis, vous avez publié un premier roman, ce qui s'est sorti au mois de mars. Il y avait une présentation chez Soram, me souviens bien.
Sorti début mars, oui.
Voilà. Et puis, on laisse, comme il y a plein de sorties de livres, donc ça reste un peu de côté. Et puis là, il revient dans l'actualité, puisque vous êtes vous avez eu l'agréable surprise, j'imagine, pour un auteur, d'être sur la première sélection du prix Révélation d'automne, attribué par la SGDL, la Société des gens de lettres.
Oui, j'ai appris ça. Mon éditrice m'a envoyé un SMS très tôt un matin pour me dire « Regarde !» Et donc, c'est très plaisant, surtout que le livre est sorti au mois de mars. Donc, il a vécu sa première vie en librairie. Et de voir qu'il est reconnu, qu'il est retenu pour un prix qui n'est pas aussi connu que bien des prix littéraires, mais qui est attribué par des auteurs. Et ça, c'est très important. Voilà, et ça fait énormément de plaisir d'être dans cette liste, surtout qu'il y a plein de très bons livres à côté, donc voilà.
Oui, puisqu'on on disait hors micro, en préparant cet entretien, comme ce n'est pas un prix très, très médiatisé, du coup, il n'y a pas de pression médiatique, il n'y a pas de manœuvre, entre guillemets, c'est souvent ce qu'on reproche au Goncourt, et du coup, on se dit que c'est un prix qui vaut son prix, quoi.
Oui, complètement.
Si je puis dire.
Je vous confirme qu'Asphalt n'a pas acheté ce prix.
N'a pas acheté, non. De toute façon, Asphalt, qui est on vous évoquait l'éditeur, une petite maison d'édition, enfin, qui a un sacré catalogue, spécialisé, on va dire, sur le monde du polar, mais de façon très large, le monde du polar et du noir, mais de façon très large, urbain souvent.
C'est plus l'urbain que le polar.
L'urbain même, oui.
Ouais. Il se trouve que les récits sont souvent noirs parce que...
Parce que le monde urbain prête beaucoup à ça.
C'est toujours très joyeux.
Voilà. Et puis qu'il y a la spécificité aussi, alors on l'utilisera peut-être pour, une fois qu'on aura fait cet entretien, de proposer les playlists des romans à la fin. Et on peut même aller sur le site de l'éditeur pour trouver, écouter les musiques. Alors, avec, après, autour, tout en lisant le récit ou le roman. Alors, le roman, de quoi s'agit-il? Ça s'appelle Motel Valparaiso. On est perdu fin fond de l'Arizona.
Dans le désert du Sonora.
Le désert du Sonora, donc grand désert, des grands déserts américains. Dans une ville étrange, on a l'impression d'une ville fantôme, comme vous la décrivez presque.
C'est une ville fantôme, a priori, quand le narrateur du livre arrive à cet endroit. Il est parti aux États-Unis faire officiellement, enfin, pour des prétextes. En fait, il voulait se faire un point sur sa vie et écrire un livre. Il avait ce projet d'écrire un livre qu'il n'avait jamais eu le temps d'écrire. Et il s'est lancé, il s'est dit, en changeant de lieu et en revenant dans un pays où il avait habité quand il était beaucoup plus jeune, il trouverait peut-être une nouvelle inspiration. Et en traversant le désert en bus, il voit ce motel et cette ville derrière, mais qui lui paraît effectivement presque inhabitée, mais il aperçoit la silhouette d'une femme qui l'éblouit et qui le fascine. Comme il est très fatigué, il ne sait pas s'il l'a rêvé, mais cette image l'obsède. Du coup, il achète d'occasion une voiture, il fait demi-tour, il s'installe au motel. Et là, il découvre petit à petit des gens qui sont très attachants, qui vivent là depuis longtemps et qui ne partent pas de cette... Alors, le gardien du motel, qu'on appelle le vieux, on ne saura jamais son nom. Et puis, il se fait un ami qui s'appelle Jeff, qui tient une boutique dans la vieille ville. Et au départ, il pense qu'il n'y a que la vieille ville. Mais finalement, cette ville s'étend de plus en plus au fur et à mesure qu'il y passe du temps et des jours et des mois. Et personne n'arrive à en sortir de cette ville. Alors, est-ce que les gens ne veulent pas en sortir? Est-ce qu'ils ne peuvent pas en sortir? Voilà, toute l'histoire est là-dessus. Et qu'est-ce que cette ville? Et pourquoi plus il y vit, plus elle semble s'étendre. Voilà, c'est un peu les prémices du livre.
Voilà. Alors, il y a quelque chose quand vous plantez le décor au début, moi, qui m'a fait penser à un film qui m'a fait penser à Bagdad Café. On a ce lieu complètement perdu dans un paysage où il y a quoi? Il n'y a rien.
Il n'y a rien. C'est le désert.
Il n'y a rien. Il y a de la poussière, il y a des cailloux, il y a peut-être des montagnes au loin, et puis ça s'arrête là. Ça fait vraiment penser au début à une ville fantôme, et puis la ville fantôme, plus le récit avance, effectivement, plus moins elle fait ville fantôme, ou en tout cas, on s'aperçoit que c'est une vraie ville, quoi, qu'il y a derrière.
Oui, c'est une... ça peut être une ville moyenne américaine.
Voilà. Alors, on peut se demander, ville rêvée par le personnage, ou par le narrateur, ou ville réelle?
Alors, la ville n'existe pas, je l'ai inventée.
Le nom, j'ai vérifié. Oui, non. Vous l'avez baptisé Cévola. Il n'y a pas de Cévola dans le secteur du désert de Sonora.
J'ai pris plusieurs lieux que j'ai un peu amalgamés. Puis voilà, j'ai un peu situé. J'ai une carte de Cévola. J'ai même un plan de Cévola chez moi.
D'accord.
Mais bon, un plan un peu succinct, mais ça m'a aidé à construire le livre. Voilà, après, est-ce que c'est une ville rêvée? C'est au lecteur de le découvrir, en fait, et c'est au lecteur de l'imaginer, finalement. Je pense que chacun prend ce qu'il veut. Est-ce que c'est un lieu où les gens s'échouent parce qu'ils sont... Tous les protagonistes sont finalement un peu en quête de quelque chose. C'est un peu le thème de ça. C'est le fait d'arriver à un endroit en se disant qu'on a... Quand on fait un point, peut-être à 40 ans, 50 ans, ce qui arrive souvent, et on se dit, mince, je suis passé à côté de toutes les opportunités que j'avais dans la vie, et qu'est-ce qui me reste devant? Et en fait, c'est un peu ça, c'est un peu le lieu où on se réinvente. Mmh. Et du coup, cette ville se réinvente aussi avec les personnages. Donc le fait qu'elle se développe comme ça pour le narrateur, c'est peut-être un signe d'espoir. C'est qu'il finalement, il arrivait dans un lieu qui était une ville fantôme, où il était seul, ou quasiment, et à la fin, c'est une ville beaucoup plus élargie, plus étoffée, avec plus de personnages. Voilà, donc c'est un peu une métaphore de ça.
Voilà. Et puis avec cette question pour le narrateur, et que d'autres lui racontent, quoi. C'est une ville dont on ne peut pas partir, elle est un peu comme un trou noir, on est attiré, et puis c'est, une fois qu'on y est, on n'en sort plus. Mais bon, c'est ce qu'on raconte, en même temps, il y en a un qui dit, mais tout le monde, celui qui dit, un des personnages qui a tout le temps dit ça, vers la fin du livre, dit, mais de toute façon, tout le monde finit par partir.
Oui, c'est ça.
Donc on ne sait plus trop ce qu'il faut en penser. Et puis l'auteur a l'air de partir, et puis, mais en fait, il reste. Donc, c'est
le narrateur.
Le narrateur, pardon, pas l'auteur. Le narrateur, voilà. Mais il est aussi auteur.
Oui. En tout cas, il a l'ambition d'écrire un livre. On ne sait pas s'il y arrive vraiment, mais...
Voilà,
c'est peut-être ce livre-là, remarquez.
C'est peut-être ce livre-là. Hein. Donc, il y a beaucoup de jeux comme ça, je trouvais, dans la façon de conduire le récit, qui nous laisse dans un espèce de flou, dans une incertitude. L'incertitude qui venait des rêves, disait un philosophe.
C'est un récit, je rebondis là-dessus.
Ville perdue, enfin bourg de 3-4 maisons perdues ou ville moyenne. On peut en partir, on ne peut pas en partir. L'écrivain vient chercher quelque chose qu'il fait mais qu'il ne fait pas tout en le faisant quand même. Enfin, c'est volontaire ce côté de jouer. C'est jamais sûr. C'est que des incertitudes, quoi. Il y a des sentiments très forts, mais on ne sait pas où ça va.
Je voulais un récit très onirique. Et en fait, tout pourrait n'être qu'un rêve, finalement, que le rêve du narrateur. Et est-ce que cette ville existe vraiment, ou est-ce qu'il... Et puis, quelle ville existe vraiment? Est-ce que c'est la ville, la grande ville de la fin qui existe, ou est-ce que c'est la ville fantôme? Peut-être qu'il est dans une ville fantôme et qu'il rêve d'autre chose, ou au contraire, dans une ville plus peuplée où il rêve d'une ville fantôme. Je voulais garder ce côté, mais plus onirique que fantastique, et que ça soit vraiment au lecteur de prendre ce qu'il veut, parce que quand on prend un livre fantastique, on est un peu obligé d'adhérer au principe que c'est un livre fantastique. Et là, je voulais vraiment que le lecteur puisse se dire non, mais quelqu'un qui est très rationnel et qui n'a pas envie d'une histoire fantastique, il verra des choses très psychologiques sur sur les personnages, et qu'il se dira, bah oui, en fait, c'est leur fantasme d'une certaine manière, mais tout est bien réel. Voilà, c'est un peu au personnage de choisir.
Au personnage de choisir, au lecteur de faire son choix. Mmh. Alors, on va revenir là en deuxième partie de notre entretien. On va s'interrompre quelques minutes. Motel Valparaiso, c'est le titre. Je crois qu'on l'a oublié de le donner. On va peut-être évoquer en deuxième partie d'où vient ce titre, parce que vous vous référez aussi à un photographe,
Sergio Larrain,
qui a publié un de ses livres connus, s'appelle Valparaiso.
Tout à fait, oui.
Voilà. Donc on se garde ça pour la deuxième partie.
Avec plaisir.